Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 20e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir un texte de Jean-Louis Hermine. Jean-Louis Hermine est auteur de romans et de nouvelles dans le domaine de la science-fiction et du fantastique. Né en Lorraine en 1950, Jean-Louis Hermine vit désormais à Coursac, où il travaille comme chercheur scientifique et consultant. Il a publié « Météore, l'univers fascinant » de Richard Bessières aux éditions Rivière Blanche, « Les cercles de l'éternité » et « La prophétie des anciens » aux éditions Publish Room et « L'énigme Lascaux » dans la collection « Moisson noir » des éditions La Geste. La nouvelle que nous allons lire aujourd'hui s'intitule « Le secret de Puy-Guillaume », extraite du recueil collectif « Des nouvelles de Dordogne » à paraître prochainement. Bonne écoute. Le secret de Puy-Guillaume. Le château de Puy-Guillaume est un château du XVIe siècle situé à 35 km au nord de Périgueux, près du charmant bourg de Brantôme, qu'on surnomme un peu pompeusement la Venise du Périgord au vu des quelques cours d'eau de la rivière la Dronne qui le traverse. Ce château, restauré et classé aux monuments historiques de France, est accueillant et agréable de par ses dimensions modestes, son mélange d'architecture médiévale et renaissance et ses abords soignés, faits de bois et de terrains aménagés pour recevoir les visiteurs. C'est un endroit un peu confidentiel que François avait découvert par hasard dans les excursions qu'il faisait pour découvrir la région où il venait d'emménager. Il était immédiatement tombé sous le charme et s'était attaché à cet endroit où il revenait souvent pour y flâner et rêver un peu. Il le découvrait de plus en plus et commençait même à savoir des choses sur ce lieu que peu de gens étaient susceptibles de connaître. En fait, il avait rencontré, dès le début, M. Georges Cluzel, le responsable régional des monuments historiques, qui venait de temps en temps accueillir des visiteurs ou faire des conférences spécialisées. François venait de prendre sa retraite du Centre de recherche sémiotique de l'Université de Limoges et avait terminé sa carrière comme membre du prestigieux Institut universitaire de France à la chaire de sémiotique, cette science moderne dont le but est d'étudier la fabrication du sens à travers un texte, une image, une sculpture, un son, etc. Il était spécialisé dans l'étude des arts visuels et il avait trouvé en Georges Cluzel un interlocuteur passionné et extrêmement cultivé. Leur discussion sur la signification des gestes architecturaux du château, des signes présents dans les décors, les sculptures, les œuvres diverses qui ornaient les différentes parties du bâtiment était interminable et à la fois d'une richesse et d'une complexité qui auraient fait fuir n'importe quel profane. Leurs palabres pouvaient durer des heures, ils en ressortaient toujours épuisés, mais avec cette impression bizarre d'avoir aperçu au final un aspect caché de la réalité qui leur avait échappé jusque-là. Cluzel eut vite fait de solliciter son interlocuteur sur un problème très particulier du château. Il y avait une inscription énigmatique placée au-dessus de la porte d'entrée de la tour d'escalier. Il s'agissait d'un rectangle composé de deux rangées de quatre carrés, chaque carré comportant des décorations et des écritures mystérieuses. Tout le monde se demandait ce que signifiait ce schéma rectangulaire et pourquoi il était là. C'était même devenu une sorte d'attraction touristique et il était reproduit sur les cartes postales vendues à l'accueil sous l'intitulé « Le mystérieux rectangle de Puy-Guillaume ». La première fois qu'il en parla à François, Cluzel se perdit dans toutes sortes d'interprétations assez farfelues, d'hypothèses symboliques alambiquées, d'explications sans vraiment de fondement. Rapidement, François sentit que c'était de sa compétence de lui fournir quelques arguments d'analyse scientifique qui donneraient du sens à ce fameux rectangle de Puy-Guillaume, initiant ainsi un mythe qui pourrait perdurer longtemps pour le bonheur des touristes et des amateurs d'ésotérisme de tout poil. Il en parla à Cluzel et, mi-amusé, mi-sérieux, ils s'entendirent pour lancer la recherche. L'introduction d'énigmes graphiques sur des éléments d'architecture n'est pas une nouveauté. Le cas le plus célèbre est le carré Sator, qui suscite des exégèses et des polémiques depuis des siècles. Le plus ancien connu, qui a été trouvé à Pompéi, date de l'an 79. On en retrouve dans toutes les parties du monde. Il y en a aussi en Périgord, à la maison forte de Reignac, dans la vallée de la Vézère, un château-falaise du XIVe siècle, unique en France, un lieu réputé hanté suite aux crimes qui auraient été perpétré par son propriétaire maléfique, surnommé le Bouc de Reignac. Le carré Sator a été popularisé dernièrement par le film de science-fiction Tenet de Christopher Nolan en 2020, dont il est un élément structurant. Le carré Sator est un carré magique qui est une forme de mot croisé disposé en carré, ne comportant pas de cases noires et constitué de mots valides dans une langue définie. Ils peuvent, par définition, être lus horizontalement et verticalement et présentent dans ces deux sens les mêmes mots. Les écrits et les interprétations du carré Sator à travers les âges ne se comptent plus et en font sûrement un des mystères sémiotiques les plus célèbres de l'histoire. Dans les bâtiments sacrés, comme les cathédrales, les bâtisseurs, les maçons, se permettaient de parsemer certains murs de figures symboliques, de significations souvent païennes, ou simplement pour marquer leur passage ou celui de leur confrérie. La réalisation du rectangle de Puy-Guillaume a pu marquer le besoin des constructeurs de signer leur œuvre ou de passer quelques messages symboliques, religieux ou païens. En tout cas, il n'a pas été conçu au hasard, François en était persuadé. La chose la plus remarquable que repéra immédiatement François fut un certain nombre de symétries qui semblaient avoir un sens caché. Sur les 8 carrés formant les deux lignes du rectangle, les 4 carrés situés au centre pouvaient être considérés comme une forme autonome, un carré de dimension 2 intégré au rectangle. De plus, il y avait une symétrie en diagonale, chaque carré se répétant en vis-à-vis. François reconnut rapidement les symboles dans chacun des carrés symétriques. Le premier était une corde à nœuds, symbole des bâtisseurs d'édifices, églises, cathédrales, châteaux, etc., l'outil de base des maçons. Le second était un chapelet de prière, symbole spirituel religieux de dévotion à Dieu, l'outil de base du clergé. François vit, de manière évidente, dans les symétries diagonales, un antagonisme entre le pouvoir séculier sur la matière, symbolisé par les maçons, et le pouvoir spirituel sur les âmes, symbolisé par la chrétienté. Un tel antagonisme est classique dans l'analyse des symboles car il fait jaillir immédiatement un sens particulier dans la figure observée. Cette interprétation s'imposait à lui et il se demanda s'il pouvait la corroborer par ailleurs. Ils se retrouvèrent au château avec Cluzel pour en discuter. Ce dernier reconnut la pertinence de l'analyse et le félicita pour ce brillant résultat. La conversation s'enclencha. « Il semble, dit François, qu'on a voulu signaler, par ce que je viens de vous expliciter, un conflit ou du moins un antagonisme qui s'est produit entre un aspect matériel d'un événement et son aspect spirituel religieux. Sans doute, mais quel type d'événement ? Si c'est une opposition qui implique la chrétienté, c'est un événement d'ordre dogmatique, nécessairement, un conflit sur une pratique, un rituel. Un rite païen combattu par l'Église ? Ce ne serait pas étonnant, dit François. À l'époque, ça devait être chose courante. Mais je connais mal l'histoire de la région. Vous en savez plus, vous ? Cluzel haussa les épaules.
Localement, cette région a été très longtemps sauvage et coupée du monde. La forêt de la Double, avec ses environs, est réputée pour avoir été un endroit reculé, peuplé de gens frustes et incultes. On en a une description assez fidèle dans certains romans d'Eugène Leroy, cet écrivain périgourdin célèbre, témoin de son époque et de son pays. Ce n'est pas très réjouissant. Les gens devaient être assez simples d'esprit, avec des croyances irrationnelles, voire imbéciles, et une violence sous-jacente qui s'est exprimée parfois de manière exacerbée.
Cluzel marqua une pause. François l'interrogea du regard.
« Je pense, continua-t-il, à un épisode sordide et incroyablement violent qu'on appelle le drame de Hautefaille, un village tout près d'ici où un jeune notable des environs a été frappé, supplicié et finalement brûlé vif par une foule en plein délire meurtrier. C'était en 1870, mais c'est un épisode qui reste comme une plaie à vif dans la mémoire des gens d'ici.
On connaît les raisons ?»
Oui, soi-disant un délire paranoïaque ayant pour origine les conditions géopolitiques et sociales de l'époque. Mais c'est plus que ça. On a parlé de cannibalisme et même de cérémonies sataniques.
François eut une mimique significative.
Eh bien, si on cherchait un épisode de lutte entre Dieu et le diable, on aurait du mal à trouver mieux.
C'était au XIXe siècle. Il y avait peut-être une longue lignée de pratiques païennes ou sataniques qui ont prédestiné à ce genre de folie. Le Périgord est un territoire connu pour ses combats spirituels anciens et les pratiques associées.
On ne pourra jamais savoir, mais en tout cas, voilà une illustration du symbole d'une opposition, et une opposition forte, entre le domaine régulier, spirituel et religieux, et le domaine séculier, matériel et païen, qui s'est révélé dans le rectangle depuis Guillaume.
Vous croyez ?
Je vais encore continuer à chercher d'autres indices, mais il y a aussi d'autres significations qui apparaissent dans le rectangle. Cluzel eut une expression à la fois de curiosité et d'incrédulité. François s'expliqua. Nous avons déjà trouvé une signification plausible sur le carré symétrique central, formé de quatre carrés élémentaires. Mais regardez les deux carrés au bord à gauche et les deux carrés au bord à droite. Si on les assemble, ils forment aussi un carré de longueur 2, qui est une figure symétrique, rappelant celle qu'on vient d'étudier. La question est pourquoi ce carré est éclaté en deux parties distantes et n'est pas mis au même niveau que le premier que nous venons d'étudier afin de faire ressortir une signification équivalente ? Devant l'expression interrogative mêlée d'incompréhension de Cluzel, François sourit. « Je vais étudier ça maintenant. » François se mit à visiter régulièrement le château de Puy-Guillaume. Il en connaissait maintenant les moindres recoins et sa recherche sur l'élicitation des symboles du rectangle commençait à devenir une obsession. Il devenait de plus en plus persuadé qu'il y avait une signification malsaine, sinon maléfique. La première analyse qu'il avait faite le convainquait qu'il y avait là un signe d'une lutte sans merci entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, et que des personnes voulaient lui célébrer un culte. Sans doute les personnes dont les initiales remplissaient les petits carrés. Il avait perdu espoir de connaître la liste des personnes correspondant à ces initiales. Il en avait maintes fois parlé à Cluzel, mais on disposait de très peu d'archives sur les personnes ayant participé à la construction du château et encore moins sur les gens qui l'avaient fréquenté. On pouvait encore penser que cette suite de lettres correspondait à un message codé, mais c'était encore plus définitivement énigmatique. Dans les carrés restants, il trouva encore des symétries significatives, comme ces cadres formés de tiges entrelacées représentant symétriquement des carrés ou des cercles, qui symboliquement représentent encore une opposition spirituelle, soulevant la différence entre le cercle, symbole universel, omniprésent dans la nature, soleil, lune, planète, et le carré qui est une invention humaine. Il se mit à chercher partout des indices. Il trouva une suite de lettres mystérieuses près du rectangle sur la porte d'entrée de la tour d'escalier, examina toutes les sculptures, toutes les boiseries, même les dessins des jardins, mais ne trouva rien de probant. C'est en parcourant les terrains à l'intérieur et à l'extérieur du château qu'il fit connaissance d'un personnage bizarre, qu'il surnomma rapidement Inpeto, le gnome, tant il était de petite taille et difforme. C'était quelqu'un de connu dans les environs et on le considérait un peu comme l'idiot du village avec une certaine sympathie. C'était sans doute à cause de sa physionomie, avec son visage d'une laideur prononcée et sa colonne vertébrale déglinguée, et ce n'était sûrement pas à cause de son intelligence déficiente, car quand on le connaissait, il manifestait plutôt une certaine maturité dans la discussion et un certain humour dans son expression, qu'il ponctuait parfois d'un ricanement assez désagréable qui, effectivement, pouvait le faire passer pour un idiot. Le gnome se promenait souvent dans les environs du château. Il semblait désœuvré et était très disponible pour tenir une conversation. François en profita souvent et ils eurent de nombreux entretiens sur le château, son histoire, sa construction, les événements et les anecdotes qui s'y rattachaient. Le gnome était un puits de renseignements incroyables, bien qu'il ne pût justifier ses assertions par aucune source fiable. François arriva naturellement à lui parler du rectangle et de ses débuts d'interprétation symbolique. Le gnome ne fut pas surpris et abonda dans son sens. Il lui révéla, sans preuve bien sûr, qu'il s'était passé de drôles de choses au château et ceci depuis son achèvement dès la fin du XVIe siècle. On racontait que l'on avait vu régulièrement des gens, des aristocrates, des bourgeois, des gens de la bonne société, venir par dizaines de Brantôme, de Périgueux, voire de plus loin, se réunir au château. On ignorait le prétexte de ces événements, mais chaque fois, disait-on, ils restaient une nuit et repartaient tôt le lendemain dans la plus grande discrétion. François n'avait jamais entendu parler de ça et ne put trouver aucune trace de ces événements.
mais le gnome semblait très crédible en parlant. Ils en discutèrent plusieurs fois et à chaque fois, de nouveaux détails renforçaient la cohérence du discours. Un jour, le gnome le convia dans les jardins du château. Il voulait faire des révélations à François. Le jour de cette rencontre, l'ambiance était lugubre. Le ciel était chargé de nuages très noirs. Un vent glacial soufflait en tourbillon. Les arbres bougeaient de manière effrayante. Les murs et leurs ornements, les statues, les jardins étaient enveloppés de couleurs sombres apeurantes. Le gnome était près de l'orangerie qui jouxtait le château. Il était vêtu d'un pardessus trop large qui accentuait son aspect grotesque. Il s'approcha de François avec un sourire qui ressemblait à un rictus.
« Bonjour, monsieur François. » Il avait pris l'habitude de l'appeler ainsi. « Je voulais vous montrer quelque chose. Merci d'être venu. »
« C'est à propos de ces réunions mystérieuses dont nous avons souvent discuté ?»«
Oui, vous sembliez toujours incrédule, alors peut-être que ça va vous intéresser. »
« Vous ne m'avez donné aucune indication tangible jusqu'ici. Même si votre récit semble crédible, ce n'est pas suffisant. »«
C'est-à-dire que les participants étaient très discrets. Ils ne voulaient pas se faire remarquer. » C'est seulement quelques personnes qui habitaient ou travaillaient ici, comme ceux de l'orangerie, qui racontaient des choses qui se sont transmises jusqu'à nos jours.
On dirait que c'est arrivé uniquement à vos oreilles. Le gnome eut son petit ricanement déplaisant.
C'est un privilège de l'idiot du village, à qui on peut tout raconter sans danger.
Et que faisaient ces gens?
Ça, on ne me l'a pas dit, mais visiblement, ils avaient l'air de conspirateurs et ils effrayaient les personnes qui les voyaient. Cependant, personne n'a jamais échangé avec eux.
Un éclair brilla dans les yeux du gnome, en même temps qu'il esquissait un geste d'effroi accompagné d'un ricanement rauque.
On disait qu'ils pratiquaient des cérémonies secrètes, qu'ils invoquaient les démons.
François haussa les épaules, mais cela ne l'empêcha pas de frissonner au vu de ce qu'il avait intuité lui-même. Ce sont des croyances populaires.
Peut-être, peut-être. En tout cas, on le dit.
Et on vous a dit quand ça s'est arrêté?
J'ai cru comprendre à la fin du 19e siècle, quand le château a périclité. Il paraît même que ça continuait quand le château était en ruine.
Eh bien, voilà des croyances qui ont la vie dure. Le gnome eut encore un ricanement et invita François à le suivre. Ils passèrent derrière le château et empruntèrent le chemin qui menait à l'immense pigeonnier construit en contrebas. Sur le flanc, en face du bâtiment, une végétation arbustive dense dissimulait un talus qu'on aurait pu prendre pour un monticule qui aurait servi pour une cave ou une glacière. Le gnome se faufila avec difficulté dans les arbustes et, s'égratignant aux branchages, les écarta en dévoilant un début d'ouverture dans le monticule. François, sidéré, se rendit compte que c'était effectivement une entrée presque entièrement dissimulée par le temps et la nature. Il avança et, en s'écorchant lui aussi, il examina ce qu'il pouvait voir à l'intérieur, malgré le manque d'éclairage dû à la pénombre et à la noirceur qui régnait au dehors. C'était incroyable. C'était une cave de pierre vaste comme une grotte. Elle était circulaire, d'un volume considérable. Sur le mur du fond, il y avait comme un autel incrusté dans une voûte oblongue sculptée. Au centre, il y avait une colonne, du sol au plafond, qui semblait soutenir l'édifice. Une colonne sculptée du bas jusqu'en haut, avec des motifs que François ne pouvait distinguer. La colonne se terminait par un anneau circulaire qui semblait adhérer au plafond. Cet anneau était formé par la conjonction de 8 carrés lisses disposés régulièrement sur la circonférence. François en eut le souffle coupé. Personne n'avait soupçonné l'existence d'un tel lieu si proche du château. Il est vrai que si le gnome ne lui avait pas fait la révélation, il n'y aurait vu qu'un talus de terre, éventuellement amassé par des humains, mais jamais il n'aurait imaginé que cela aurait pu être comme un tumulus ou même un temple, si petit soit-il. Le gnome avait raison. Il devait y avoir là un lieu secret pour des rites cachés, sans doute symbolisés pour les initiés par le rectangle de Puy-Guillaume. Il comprit soudain ce qui l'avait obsédé jusqu'ici. La clé du symbolisme du rectangle était là, dans les 8 carrés du sommet de la colonne, qui pouvait là réunir les 8 carrés du rectangle de Puy-Guillaume en une symétrie parfaite et une harmonie prenant tout son sens. Ce fut comme si la foudre était tombée sur le talus à ses pieds. Il sentait qu'il venait de décrypter le secret. Il ressentit comme une immense impression d'une lumière qui envahissait son cerveau, comme l'effet fort et soudain d'une drogue qui libérait d'un coup tous ses principes actifs. Il tourna la tête vers le gnome, celui-ci le regardait fixement, avec les yeux brillants et toute sa laideur s'incarna dans son ricanement insupportable. François devint obsessionnel. Après la découverte du temple, c'est ainsi qu'il l'avait dénommé, il voulait absolument en décoder les signes et comprendre son fonctionnement rituelique. Il y passa tout son temps. Il revint très souvent sur le lieu, souvent seul, parfois avec le gnome, mais toujours très discrètement, car lui et son étrange acolyte avaient décidé que personne ne devait être au courant avant que certains mystères aient été compris. À quoi servait ce lieu? Quelles étranges et maléfiques cérémonies s'étaient déroulées là jusqu'à un passé pas si lointain? Quelles étaient les clés symboliques présentes sur place qui permettaient de comprendre les rituels déroulés pendant les célébrations et qui permettaient peut-être de les reproduire? Au bout de quelque temps, François comprit bien que c'était là sa quête, reproduire les rituels, en tester les effets, en dupliquer les résultats. Chaque fois qu'il venait dans ce lieu énigmatique, il ressentait une force incroyable qui s'en dégageait, un souffle mystérieux qui l'animait. Mais cette force le dominait, le subjuguait sans qu'il puisse la comprendre et la maîtriser. À chaque visite, l'impression qu'il pouvait s'approprier cette force, la faire sienne, augmentait et ce ne fut plus que son objectif final. Il développa une activité intense et une énergie folle à comprendre les mystères de ce temple. Avec toute son expertise sémiotique, il étudia en détail tous les signes présents sur les différentes parois et sur la colonne centrale. C'était un foisonnement symbolique incroyable qui s'offrait à lui et qui lui racontait un récit mythique, mystérieux et effrayant dans lequel il reconnut les allégories de la lutte entre le bien et le mal, les représentations de Dieu et de Satan, du paradis et de l'enfer. Il traça tous les antagonismes qu'il mettait en évidence, les clés de compréhension qu'il y voyait. Et sans surprise, il comprit que la symétrie des figures et des signes était la clé de lecture du mythe qui était célébré dans ce lieu dissimulé à la vue des non-initiés. Il en conclut que c'était le message caché que contenait le rectangle de Puy-Guillaume, avec ses symétries plus ou moins imparfaites et sa symbolique d'opposition profane-sacrée. Il pensait ainsi avoir décrypté le secret du rectangle. Il voulait maintenant le mettre en œuvre. Il en avait trouvé le moyen. Toute la symbolique du temple, notamment les enchevêtrements de symboles de la colonne centrale, lui désignait le chapiteau de la colonne comme le siège de la puissance qui habitait le lieu. Pourtant, ce chapiteau n'était composé que de 8 carrés égaux, juxtaposés sur la circonférence et complètement lisses. François comprit assez vite le lien avec les 8 carrés inclus dans le rectangle de Puy-Guillaume. Ces derniers étaient destinés à compléter la colonne et à achever la manifestation de la puissance célébrée depuis des siècles à cet endroit. Le rectangle de Puy-Guillaume était une représentation déstructurée, plane et limitée dans l'espace. Il contenait toutes les symétries et tous les symboles nécessaires à l'accomplissement de la volonté spirituelle qui le sous-tendait, mais dans un désordre non conforme qui en empêchait l'exécution. François avait rétabli l'ordre mystique grâce à un modèle mathématique de géométrie. C'était assez simple, à partir du carré central au synchronisme assez visible. Il comprit qu'il n'avait plus qu'à ordonner les 8 carrés composant le rectangle en les mettant côte à côte selon la logique qu'il avait découverte et refermer cette figure linéaire pour en faire un cercle sans début ni fin. C'était ce cercle qui manquait au chapiteau de la colonne centrale, où l'emplacement avait été conçu, mais sans le décor final. C'était lui qui, finalement, avait été exposé, sous une forme édulcorée, au vu et au su de tous les profanes, dans le rectangle de Puy-Guillaume, à l'entrée du château, et cela depuis des centaines d'années. François savait maintenant que c'était à lui de compléter la colonne, afin de libérer la force qui attendait dans le temple, sans doute depuis des temps immémoriaux. François se livra alors à un véritable travail d'anthropologue. Il décida de faire des facsimilés de chaque carré, en reproduisant chaque détail, chaque relief, chaque dessin ou sculpture, afin d'avoir des copies parfaites. Ce ne fut pas une mince affaire. Il se fit aider par le Centre national de préhistoire de Périgueux, où il s'était fait beaucoup d'amis. Celui-ci disposait d'appareillages modernes pour tracer des modèles 3D des parois rupestres des grottes où se trouvaient des œuvres préhistoriques. Il dut inventer des justifications crédibles pour que Georges Cluzel lui permette de monter des échafaudages et de faire les relevés correspondants sur le rectangle de Puy-Guillaume. Il y passa beaucoup de temps, mais finalement obtint une reproduction en 3D fidèle de chaque carré avec toutes les cotes correspondantes. Il se rendit ensuite dans un Fab Lab de Périgueux, un endroit au sein duquel des outils sont mis à disposition des utilisateurs pour leur permettre de donner vie à leur projet. On y trouve notamment des imprimantes 3D, des outils de découpe de précision, etc. Un Fab Lab, c'est aussi un lieu collaboratif de travail et d'échange entre des personnes d'univers différents. Le Fab Lab de Périgueux était assez renommé et attirait beaucoup de créateurs et d'artistes des environs. François y trouva conseils et matériel pour réaliser ses 8 facsimilés en pierre, reconstitués à partir des représentations 3D qu'il en avait. Il trouva le résultat remarquable. Arriva enfin le jour où François allait mettre en œuvre toute sa théorie et le résultat de ses travaux. Il allait compléter définitivement la colonne du temple par un anneau fermé composé des 8 carrés assemblés dans l'ordre qu'il avait découvert. Il savait que c'était l'acte ultime qui allait réveiller la force démesurée que tous les pratiquants initiés avaient invoquée pendant des siècles à travers leurs rites et leurs symboles. Le jour était venu. Il n'en parla à personne, si ce n'est au gnome dont il avait besoin pour lui prêter main forte. Quand il lui expliqua l'expérience qu'il allait tenter, celui-ci eut une lueur enflammée dans le regard et le gratifia de son ricanement le plus désagréable. Il s'affaira avec une impatience, une vigueur et une force dont François ne l'aurait pas cru capable, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Ils apportèrent de nuit les 8 carrés de pierre dans le temple et préparèrent le chantier avec l'appareillage nécessaire pour sceller l'anneau sur le chapiteau de la colonne. François crut sentir qu'un niveau d'énergie commençait à croître dans le lieu, mais il se demanda si ce n'était pas son propre niveau d'excitation qui lui donnait cette illusion. François s'installa au sommet de la colonne centrale et patiemment cimenta les rectangles un par un sur chaque cartouche préparée à cet effet. Il réussit un entourage circulaire parfait, ajusté au millimètre. La boucle était bouclée. Il descendit de l'échafaudage et contempla l'œuvre accomplie. Il fit le tour de la colonne, plusieurs fois, pour contempler l'ordonnancement des symboles du rectangle de Puy-Guillaume tel qu'il devait apparaître dans sa forme rituelique, avec toute sa puissance symbolique potentielle. Le gnome était derrière lui, mettant chacun de ses pas dans ceux de François, en ricanant de manière de plus en plus effrayante. C'est alors que le phénomène se déclencha. Cela commença par l'installation d'un clair-obscur soudain qui semblait venir d'un changement d'éclairage à l'extérieur du temple, comme si une lumière nouvelle s'était installée au dehors pour irradier l'intérieur. Mais il n'en était rien. La lumière à l'intérieur du temple venait de se modifier soudainement, plongeant la salle dans un état étrange où la plupart des objets s'estompaient et où quelques autres se mettaient à briller, comme l'autel ou la colonne. Cette dernière s'était transformée et ressemblait maintenant à une colonne d'énergie dont l'intensité semblait augmenter graduellement en s'élevant vers le chapiteau, vers l'anneau des symboles. Lentement, un bourdonnement se fit entendre. Il semblait venir de nulle part, mais ne tarda pas à envahir tout l'espace. D'abord très ténu, son volume augmenta progressivement et ses infrasons pénétrèrent les chairs de François et de son acolyte jusqu'à les effrayer. François se demandait s'il ne devait pas sortir, tandis que le gnome, d'un mouvement brusque, se rua sur la colonne, l'enserra de ses bras et se mit à rire comme un possédé. Puis la terre commença à vibrer, à trembler. L'effet immédiat fut de faire écrouler l'ouverture du temple. Et François comprit qu'il était désormais enfermé dans ce lieu infernal, qu'il avait piégé, tandis que le gnome continuait à embrasser la colonne centrale avec un rire de plus en plus dément. Le sol se craquela. Des fumerolles nauséabondes s'échappèrent en volutes brûlantes, étouffant les deux humains qui se trouvaient là. Ils tombèrent à terre. En voulant se relever, François posa les mains sur le sol. Il était brûlant. Dans les fissures du sol qui s'agrandissaient rapidement, un rayonnement rougeoyant apparut, accompagné d'une chaleur intense, insoutenable. François comprit qu'il avait réveillé les forces destructrices et maléfiques que les adorateurs des idoles avaient célébrées depuis des siècles. Il venait de rouvrir les portes d'un monde infernal et malfaisant. Ce fut sa dernière pensée avant qu'il ne soit aspiré par le magma incandescent qui avait remplacé le sol sur lequel il se tenait.
«
Vous venez d'entendre la nouvelle « Le secret de Puy-Guillem » de Jean-Louis Hermine, extraite du recueil collectif « Des nouvelles de Dordogne » à paraître prochainement. Les autres livres de l'auteur sont disponibles en librairie et sur Internet. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez me proposer des textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains en contactant RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou par téléphone au 05 53 46 80 24 où vous pourrez laisser un message en précisant le nom de l'émission, le coin lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.